J'ai pas besoin du micro.
On enregistre.
Ah, vous enregistrez, d'accord. Jusqu'à quel point on peut mettre de l'intime? Moi, j'ai été femme de ménage, j'ai vendu des gaufres, j'ai été surveillante au musée Picasso. Et à chaque fois, j'ai constaté, par exemple, au musée Picasso, comment je pouvais, moi, en restant bridée sur une chaise, des heures, comment je pouvais le vivre différemment de gens qui se sentaient complètement encagés et qui ne trouvaient pas une place pour pouvoir même regarder le tableau et qui passaient leur temps à essayer de fuir leur situation en disant c'est quand la pause, talkie-walkie entre eux. Et puis deux femmes qui étaient là et qui étaient elles-mêmes et qui vivaient ça très bien et qui faisaient leur fonction, comment dire, ça avait du sens. Et elles étaient, bon. Et après, intimement, même quand on fait le ménage, ou même, je sais pas, j'ai tapé sur des claviers des saisies, hein, la saisie, pendant une année. Comment on peut investir, par exemple, le temps, devenir une forme de méditation. On n'est pas obligé d'aller faire du zen, du yoga, ou etc. Et que l'intime, on peut le trouver, justement, en frappant tout doucement son clavier. Ou un peu plus vite, ou... voilà, ça semble un peu dérisoire. Mais n'empêche que je trouvais... voilà, j'avais l'impression... Je savais que c'était moi. C'était moi, et même dans le ménage. Alors, comment l'intime se faisait dans le ménage? C'était pas par l'extérieur, mais je sais que... je sais que j'avais, mais voilà, je me reviens juste que... voilà, il y a une façon d'être intime, même avec un clavier d'ordi, et de saisir, et même quand... Bon, les Lego, ça, c'est autre chose. J'essaie de voir tous les boulots, mais surveillante, ça m'avait frappé entre se sentir en cage et puis pouvoir trouver la possibilité même de regarder comment les autres regardent, comment le public regardait. Il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire quand on est surveillant. On est juste assis et quasiment... s'il y a quelqu'un qui vient, bon, c'est bien. S'il y a quelque chose à vous demander, en général, tout est écrit, donc il n'y a rien à faire. Et on est obligé d'être là. Enfin, soi-disant, rien faire. Mais on peut regarder. On peut regarder déjà les tableaux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'occasion de regarder pendant une heure un tableau, ou pendant trois heures, et d'être obligé de le faire, au moins, voilà. Et puis, de regarder comment les autres regardent. Et, etc. Mais certainement, les autres surveillants n'avaient pas cette possibilité, à un moment donné, de pouvoir trouver un peu de, du jeu, de l'intime.
Est-ce que vous vous rappelez d'émotions, par exemple, dans le fait de regarder quelqu'un qui regarde, ou de regarder la posture de quelqu'un, ou de regarder... est-ce que à un moment donné, vous pouvez vous projeter dans quelqu'un qui reste longtemps et trouver que le moment est poétique, ou que vous avez une sorte de... Et que vous...
Moi, ce que je voyais, c'était comment ils circulaient dans le tableau. Et du coup, moi, je faisais comme eux, au niveau du regard. Mmh. Et du coup, moi, j'ai appris à voir aussi, puisque je me plaçais... j'avais jamais regardé vraiment les tableaux. Mmh. Donc, voilà, du coup, ça me...
Et la chorégraphie des gens, non? Vous ne regardiez pas ça?
Le temps de passage, surtout, c'est d'une rapidité telle que c'est quasiment pas possible de voir quelque chose. Mmh. C'était un défilement. Mais bon, c'était il y a un bon moment, mais je suppose que... Voilà, c'était il y a plusieurs années. Voilà.
Il y a une intervention là-bas au fond. Après, moi, je voudrais qu'on reparle de cette question de la sensibilité, le rapport au clavier, tout ça.
Et juste avant la sensibilité, moi, j'aurais posé la question du sens. En fin de compte, c'est dans ces témoignages, c'est qu'est-ce qui donne du sens au travail? Le travail, on ne le subit pas forcément. À un moment donné, il y a des luttes qui s'expriment au sein du travail. On peut agir sur son propre travail. Et pour cela, bien sûr, dans un rapport de force donné, parce qu'on est quand même dans un collectif social, il faut s'organiser. Ça s'appelle la politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail, il a un sens. Et c'est à partir du sens qu'on va lui donner... qu'on peut arriver à s'exprimer dedans, s'épanouir ou lutter pour le modifier. C'est de donner, à mon avis, des possibilités entre actif et passif me paraît assez importante.
agir avec sa sensibilité, c'est aussi du politique. Voilà.
Alors, évidemment, tu viens de dire un truc énorme, donc on va y revenir. Je voudrais juste rester sur le clavier. C'est vrai que ce que j'ai mesuré dans le travail que j'ai fait, c'était cette sensibilité du quotidien. C'était ce que moi j'appellerais ici la culture de chacun, quoi. Enfin, le rapport physique, organique, qui commence par l'ergonomie, mais qui finit par des choses infinitésimales, enfin, qui sont très petites, qui sont des façons de... qui sont l'attachement aux objets, comment on les range, comment on les met dans son tiroir, comment on les met dans son placard, comment... Et le bonheur de les retrouver à cet endroit-là, l'attachement qu'on a par rapport à ces objets, comment est-ce qu'on les personnalise, comment est-ce que... je revois les chauffeurs de bus... dont l'un était toute la discussion qu'ils avaient sur comment se tenir, il y en a un qui se mettait très très près du volant parce qu'il voulait être comme ça au-dessus, d'autres qui se mettaient comme ça, et puis comment il tournait le volant qui est très 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 grand, donc il le tournait avec des petits gestes parce qu'il préférait être un peu précis, et d'autres qui le tournaient vraiment avec une amplitude extrêmement, mais c'était que de la danse, et en fait ils en avaient parfaitement conscience, et ils se regardaient les uns les autres, et même s'ils le formulaient pas, c'était des choses auxquelles ils étaient sensibles. Quand ils montent dans le bus et qu'ils voient comment l'autre conduit, tout de suite ils voient tous les petits détails, mais il les formalise pas, il va pas en parler, mais il sait que c'est tout ça qui font son travail, qui fait son métier, les détails, mais c'est inimaginable le nombre de détails. C'est-à-dire qu'on pense que notre métier se réduit à des gestes, enfin qu'il y a des charges, mais il y a une foule de sexualité dans tous ces gestes, il y a une foule et de résistance et de souffrance. Hein, et des moments où il y a des choses qui sont indifférentes, des choses qui sont très importantes, et il y a des choses dont on se fiche, enfin qui sont dépersonnalisées. Il y a des gens qui ont des stylos et ils s'en foutent du stylo, vraiment, ils pourraient avoir n'importe quel, on leur donne n'importe quel stylo pour travailler, c'est celui-là. Il y en a d'autres qui travaillent avec leur stylo, mais c'est pas simplement une petite maniaquerie, ça fait partie de ce qui constitue l'encadrement de leur travail, c'est leur façon d'être à leur travail, quoi. Et je trouve ça, enfin, assez particulier, parce qu'en fait on le néglige, on le nie, enfin on le nie pas, mais on l'ignore, quoi. Et aujourd'hui, à force d'ignorer que tout ça c'est ce qui constitue notre intéressement, notre implication, notre engagement, on finit par oublier que le travail, c'est un lieu dans lequel on met énormément de soi, et qu'il ne faut pas se laisser avoir à penser le travail comme un lieu de négociation, exclusivement comme un lieu de négociation économique, ou comme un lieu de lutte, de macro-lutte, quoi. C'est aussi un lieu de micro-lutte. C'est un lieu de... Alors après, on peut aborder la question du sens, mais... Moi, je suis terrifié par la façon dont les jeunes, par exemple, pourquoi j'ai commencé ce projet, c'est parce que, en rentrant dans les lycées, justement, ou dans les collèges, les jeunes ont une vision du travail qui est complètement déculturalisée, enfin décultivée. Ils ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas qu'ils vont devoir penser, qu'ils vont devoir sentir, qu'ils auront du plaisir, qu'ils auront de l'engagement, qu'il y aura des luttes, qu'il y aura des souffrances, qu'il y aura leur corps, qu'il y aura leur esprit. Ils croient qu'ils pensent emploi, ils pensent job, ils pensent finalité financière, ils pensent occupation, ils pensent... Et d'un coup, cette espèce d'incroyable vidage, il y a une bonde, quoi. C'est comme si on avait vidé la baignoire. Le travail ne représente plus rien. Donc après ça, il n'y a plus qu'une question de rapport au temps et de rapport à l'argent. Et ils abordent déjà le travail comme un lieu de souffrance, comme un lieu de prostitution, quoi, d'échange du corps contre de l'argent. Et c'est du coup, dès le collège, la façon dont ils organisent les filières, dont ils organisent ce qu'ils ont envie de faire, ne correspond plus du tout à des choses qui relèvent de l'envie, mais plutôt qui relèvent de représentations qui ont à voir avec des postures sociales, qui ont à voir avec qui ont beaucoup à voir avec de la posture sociale, ou avec une finalité en termes de de salaire, de localisation, je ne sais pas quoi, et, mais qui n'est pas un rapport à une activité intellectuelle, sensible, collective, idéologique, etc. Enfin, et donc cette la façon dont le travail s'est complètement vidé de son lieu collectif, de son lieu de lutte, de son lieu d'expression, de son lieu de réalisation, quoi, me panique, enfin m'inquiète complètement, quoi. Et effectivement, la lutte pour c'est encore plus, évidemment, encore plus critique dans une période où il y a beaucoup de chômage et où finalement la première lutte consiste à chercher un emploi et non plus à chercher un travail, et non plus à chercher un métier.
Ça reste difficile, hein, l'exercice. Mais non, c'est la femme de ménage qui me préoccupe, moi. Parce que je trouve que la politique, elle commence là, quand on commence à se poser la question de savoir si finalement la création, ça serait juste pour les gens de culture, les intellectuels. Voilà. Je pense que la politique, elle commence là. Je suis pas en train de dire, évidemment, que tout est équivalent et que c'est la même chose d'être professeur d'université et femme de ménage. Hein. Je pense que ça serait tyrannique de dire les choses comme ça. Hein. Mais personnellement, moi, je vis dans un bâtiment dans lequel la femme de ménage est vraiment centrale, quoi. Voilà. Et y a parfois une manière d'habiter le métier de femme de ménage que je ne retrouve pas chez certains enseignants universitaires qui n'habitent plus leur métier. C'est curieux. Voilà. Ça renvoie à ce que disait Nicolas. La femme de ménage, par exemple, chez nous, je pense à l'immeuble, puisque ici, il est convenu qu'on parle aussi de sa propre activité. Dans l'immeuble dans lequel je travaille, la femme de ménage, évidemment, c'est classique, on la voit quand le ménage n'est pas fait. D'ailleurs, à la maison, c'est souvent comme ça aussi. Hein. Le ménage, on voit que c'est important quand ce n'est pas fait. Quand c'est fait, c'est transparent, c'est même invisible, elle n'existe pas, quoi. Mais cette femme de ménage chez nous, c'est une femme de ménage africaine, pourtant, hein, elle n'est pas... Elle a même de la peine à parler français, quoi. Mais elle est indispensable dans le fonctionnement de l'immeuble, parce qu'avec elle, on sait en gros qui est vraiment là et qui n'est pas là, parce que ce n'est pas si facile de se repérer. On sait que si on va trouver cette femme de ménage-là, on va avoir des informations précieuses sur ce qui se passe. Non, c'est pas tellement ça, d'ailleurs, qui est important pour nous. C'est qu'au fond, elle s'est appropriée ce lieu-là et elle a osé habiter ce métier. Et je pense qu'elle se sent une fonction importante dans le bâtiment. Elle exerce une fonction importante dans le bâtiment, surtout si on lui fait remarquer qu'elle l'exerce. Bien sûr, c'est aussi très important. Mais elle l'exerce. C'est approprié ce bâtiment. En un sens, c'est le sien. On ne lui demande pas. En un sens, elle fait du zèle, parce qu'elle pourrait se contenter de... Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Voilà. Elle s'est emparée de cette affaire-là. Et elle va bien au-delà de la tâche qui est définie. Et d'une certaine façon, elle habille. Alors, tout à l'heure, il y a eu un flottement sur le vocabulaire. Vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, il y a un petit échange entre vous. Vous avez dit, on habille la fonction. Et puis, Nicolas a dit ou a voulu vous faire dire, enfin, je n'en sais rien, que en fait, c'était, vous aviez au contraire incorporé la fonction. Hein. Moi, je pense qu'il est très important d'habiller la fonction, pas simplement de la voir en soi, mais d'une certaine manière de la redéfinir, quoi. Hein, c'est-à-dire d'intervenir pour la transformer. Eh ben, pour moi, la politique, alors, puisque c'est pour faire transition, la politique, ça commence par là, quoi. Quand on commence, au fond, à se sentir comptable d'une fonction et à pas accepter qu'elle soit définie seulement par autrui. Et donc se sentir, d'une certaine manière... Oui, comptable d'une fonction. Et je pense qu'une femme de ménage, elle peut se sentir comptable d'une fonction. Voilà. Ça discute. Mais je pense que si on commence à discuter de ça, alors on va faire de la politique. Parce que la politique, ça consiste bien souvent à oublier que on est comptable de la fonction qu'on occupe et qu'on est peut-être pas propriétaire de cette fonction par définition, mais en tout cas locataire, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, on a pris quelque chose quelque part, on en fait quelque chose, on va le laisser derrière, quoi. Et même pour le ménage, même pour une femme de ménage, je crois que c'est comme ça. Si on ne raisonne pas comme ça, c'est de la politique. Par contre, je vous garantis qu'il y a des fonctions beaucoup plus riches, enfin en tout cas moi j'en connais beaucoup, il y a des fonctions beaucoup plus riches qui sont désaffectées par les personnes, quoi. Et des fonctions qui pourtant autorisent des circulations culturelles plus vastes, plus grandes, enfin qui sont plus tolérantes en tout cas à la création. Non seulement qu'elles sont plus tolérantes, mais qui normalement, par fonction, doivent être créatives. Eh bien, elles sont désaffectées, quoi. Et pour moi, quand on a renoncé à affecter l'organisation dans laquelle on est investi, quoi, dans laquelle, quand on a renoncé à affecter sa fonction, pas simplement à la personnaliser, mais d'une certaine manière à la dépersonnaliser, c'est-à-dire au fond à la recréer, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, à l'investir, à la faire vivre autrement que comme elle est prévue. Je crois que ça, c'est assez fondamental, et ce n'est pas forcément partagé. Il y a des gens qui ont des fonctions sociales très importantes, qui ont renoncé à ça, et ça, c'est aussi de la politique. Bon, il y a plein de raisons de renoncer à ça. Par exemple, on peut dire, on ne peut plus travailler parce qu'on nous empêche de travailler, la société est mauvaise, quoi. Donc j'y suis pour rien. Et on peut même profiter de la fonction dans laquelle on est pour renoncer à la transformer, cette fonction. Moi, je pense que ça, c'est de la politique. Mais que la femme de ménage, qui, d'une certaine manière, considère que le ménage, elle peut le définir, ben, je pense que c'est aussi de la politique. En d'autres temps, on disait que la femme de ménage pouvait diriger l'État. Ça a conduit à des drames, hein, d'ailleurs, de regarder les choses comme ça. Parce que quand on disait ça, on ne s'occupait plus du ménage, quoi, à mon avis. Voilà. Mais bon, ça se discute. Mais si on discute de ça, c'est, pour moi, c'est de la politique. Parce que la politique, c'est, telle qu'elle se fait aujourd'hui, c'est l'aveuglement qu'on construit sur le fait que on est comptable de l'activité dans laquelle on est. Voilà. Et c'est pourquoi le cynisme se développe aussi nettement que ça, quoi. Quand on regarde autrement les femmes de ménage, et que même on demande aux femmes de ménage de faire le ménage, parce que là, on pourrait aussi traiter de cette question-là, hein, la manière dont, dans certains métiers, considérant que de toute façon le ménage est une tâche subalterne, bon, on peut se dire que c'est même pas la peine de demander aux gens de le faire correctement, quoi. Mais dans l'immeuble où je travaille, moi, ça m'est arrivé, parce qu'il y a des femmes de ménage qui font un travail remarquable, de dire à d'autres femmes de ménage que le boulot n'est pas fait, quoi. Et je pense que ça, c'est de la politique aussi. Mais je veux bien discuter de ça. Mais si on ne discute pas de ça, d'une certaine manière, on accepte la définition de la politique telle qu'elle est aujourd'hui, quoi. Voilà mon avis.
Alors, effectivement, c'est ce qui différencie pour moi l'emploi et l'activité, c'est la capacité d'inventer son métier, c'est-à-dire de le Et je pense, Gérard, que tu es un graphiste qui a inventé ton métier. Moi, je pense être un musicien qui a réinventé son métier. Et je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui peuvent se dire que le métier qu'ils ont ou le métier qu'ils ont eu, au moment où ils l'ont pratiqué, ils l'ont réinventé. Et puis, il y a des moments où vous savez que vous ne l'avez pas réinventé. Et c'est effectivement probablement ce moment-là où vous savez que ce métier-là, vous l'avez mal vécu, ou ça ne s'est pas très bien passé, et que ça s'est réduit à l'état d'un emploi. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement, et on ne peut pas faire autrement que d'y mettre de sa personne et de se dire, voilà, ce qu'on me demande, je dois le redéfinir entièrement. Alors, ça passe par plusieurs choses, ça passe parfois par des petits détails de réorganisation, ça passe par le sens. Ça passe par y mettre du sens et aller chercher le sens et parfois pas le trouver, ou aller chercher les autres pour trouver du sens. Et ça m'évoquait tout à l'heure la question du temps de parole. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous l'avez un peu évoqué, on pourrait même dire que pour le professeur aussi, la question se pose, comment est-ce que je gère mon temps de parole ? Et on peut imaginer que dans certains métiers, l'employeur dise... là, vous parlez trop. Vous ne faites pas assez, vous parlez trop. Et puis dans d'autres métiers, on pourrait dire, là, je savais qu'il fallait que je parle plus, donc j'ai peut-être perdu du temps, mais j'ai donné le temps à la parole parce qu'il y avait des choses à dire qui permettait de donner sens ou d'interpréter ou de faire lien ou de créer du... Et je pense à ça parce que j'ai fait un boulot assez long avec les postiers à Marseille. Et à Marseille, l'évolution de la poste, ça consistait en fait à... Derrière les facteurs, ils mettaient des inspecteurs en civil qui se cachaient, enfin qui ne disaient pas qu'ils étaient inspecteurs, et qui suivent le facteur. Ils ont fait il y a eu des enquêtes qui ont été faites par la direction de la poste, très poussées, pour observer le comportement des facteurs. Et avec un chronomètre, et ils chronométraient le temps que mettaient les facteurs à ne pas distribuer des lettres. C'est-à-dire qu'il y a le temps où ils marchent, il y a le temps où ils distribuent la lettre, et il y a le temps où il y a d'autres temps. Ces autres temps, c'est le temps où on parle, par exemple, où on rentre dans le magasin de coiffure, et on dit bonjour, comment ça va aujourd'hui, tout ça, nanana, j'ai du courrier, ah ben non, vous avez vu hier soir, on a perdu 2-0. Et puis, patati patata, et on ressort. Tac, chronomètre, est-ce que tout ça était nécessaire? Et puis, après, il y a les petits services interdits, c'est-à-dire des facteurs qui prenaient des courriers pour des personnes âgées et pour aller les reposter, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, ou parfois qui prenaient des mandats ou qui signaient à la place. Et donc, ils ont consigné tout ça pour repenser les métiers. Et qu'est-ce que ça fait quand on calcule dans le métier de la poste, ça s'appelle le temps social. C'est qu'ils ils se sont rendus compte que le temps social, chez certains postiers, évidemment pas tous, hein, parce qu'il y en a qui n'investissaient pas forcément là-dedans, il y en a qui investissent dans la distribution, hein. J'en ai vu qui avaient des façons de faire. Ils ont devant eux une armoire à glace de boîtes à lettres, enfin, c'est complètement fou, c'est un truc où il y en a je ne sais pas combien, il y a 80 boîtes à lettres, ils les ont toutes en tête, ils savent exactement où sont les noms, alors ça c'est les vieux de la vieille, hein. Ils ont les lettres et sans regarder, ils font comme ça. Espèce de truc complètement fou. Et en fait, il s'éclate. Et en plus, on entend ch'tang, ch'tang, ch'tang. Il y a un son à chaque fois. Espèce d'éclaterie complètement à distribuer ça et à repartir assez vite. Et puis, il y en a d'autres qui. C'est vraiment la partie un peu casse-pied. Bon, et par contre, ils attendent impatiemment de boire un coup, de rencontrer machin. Et puis, en plus, ils savent à l'heure où ils passent. Comme ils savent exactement toute la chronologie de la ville dans les rues où ils passent. Puisqu'ils passent toujours à la même heure, ils savent exactement tout ce qui va se passer, à quelle heure se lève le magasin, à quelle heure l'enfant part à l'école. Donc il sait exactement qui il va croiser, il sait quelle est la porte qu'il va ouvrir avec son passe, et quelle c'est celle qu'il n'aura pas besoin d'ouvrir, parce que la concierge sait aussi qu'il va passer, et a déjà ouvert la porte, parce qu'elle veut le rencontrer pour lui demander un truc, ou pour lui demander rien du tout. Et du coup, en l'occurrence... Quand il a fallu baisser ce temps social, puisque pour la poste, l'intérêt de baisser le temps social, c'est que si on gagne du temps sur la distribution, on peut donc donner des rues supplémentaires. Si on donne des rues supplémentaires, on répartit sur le territoire les circuits différemment et on peut diminuer le nombre de facteurs. Donc du coup, ce qui est arrivé à Marseille, c'est que le nombre de facteurs a été diminué, le nombre de rues augmenté et le temps social diminué. Et là intervient la question du sens dont parlait Gérard, à savoir... Comment une lutte, à un moment donné, pourrait s'apparenter à une sorte de lutte technique, c'est-à-dire on veut avoir moins de rues parce que c'est trop long, parce que c'est trop fatigant, parce que je sais pas quoi. Et en fait, non, ils disent on veut conserver le temps social parce qu'on pense que ça fait partie de notre métier. Mais là, ils inventent leur métier parce que jamais la Poste a dit « S'il vous plaît, au moment où vous distribuez le courrier, est-ce que vous pourriez éventuellement échanger sur le temps qu'il fait, sur le match de PSG Marseille, sur comment est-ce que va le fils de la coiffeuse demain matin, etc. » On leur a jamais demandé tout ça. Disons que c'est eux qui l'ont même pas acquis, c'est eux qui l'ont produit, c'est eux qui ont inventé ce métier. Et aujourd'hui, on leur demande de renoncer à cette partie du métier qu'ils ont inventé. On peut imaginer que dans tous les métiers, y compris dans le vôtre, le temps de parole puisse être repensé, qu'on vous demande de parler un peu moins avec les gens et d'aller plus vite au but pour essayer de trouver la solution face à... Le combat pour le sens, c'est aussi arriver à voir ce qui, dans le métier qu'on a inventé ou dans la part du métier qu'on a recréé, il y a des choses qui nous paraissent faire partie intégrante du métier, même si on ne peut pas prouver que ça produit. Et en fait, ça produit du métier, mais ça ne produit pas forcément de la production, quoi.
Je parle beaucoup ce soir. Donc juste, du coup, tout ce que vous expliquez là, ça me... Comme vous voulez qu'on donne des expériences personnelles. Donc, quand j'étais étudiante, j'étais femme de ménage. J'étais femme de ménage à l'hôpital. J'ai fait plusieurs services. Donc, en fait, c'était des missions de 2 mois. Je travaillais l'été pour me faire plein d'argent, parce que pour moi, c'était une très grosse somme quand j'avais 17, 18, 19 ans, de travailler à temps plein pendant 2 mois. Et donc, j'ai travaillé dans un service de maternité, j'ai travaillé dans un service de gériatrie et j'ai travaillé dans un service de psychiatrie. J'étais pas du tout. En fait, on n'était pas du tout formés pour être employés de ménage. On était très souvent des fils ou des filles d'employés de l'hôpital, des infirmiers ou des fonctionnaires de l'hôpital. Et puis, on rentrait comme ça, je dirais, pistonnés entre guillemets pour travailler comme employé. Donc moi, mon rôle, on me l'a expliqué brièvement quand je suis arrivée dans les services, c'était en effet de faire le ménage. J'avais des produits bien particuliers à utiliser, j'avais des outils bien particuliers à utiliser, des faubères, des lingettes différentes pour chaque chambre, etc. Puisqu'évidemment, là, pour le coup, on ne nettoie pas des bureaux, mais il faut évidemment... Il y a tout un protocole de ménage à suivre... voilà, pour des chambres bien particulières, avec des maladies bien particulières. Hein. Enfin bon, je me souviens plus très bien de tout ça, puisque c'était il y a longtemps. Mais... Et donc voilà, moi, il n'y avait pas de formation. En gros, la tâche qu'on me demandait de faire n'était pas une tâche, bien évidemment, bien difficile, bien que très, très fatigante. Et donc j'avais par exemple tout un service à faire. On était deux femmes et hommes de ménage pour tout le service. Donc si je faisais bien mon travail, c'est-à-dire que si je nettoyais uniquement la chambre de fond en comble sans parler aux patients qui étaient dans la chambre, on va dire que j'en avais pour un quart d'heure. Si je commençais à taper la discussion avec le malade, tout simplement pour aller, voilà, pour réinventer la tâche de femme de ménage qu'on me demandait d'effectuer, et que je commençais à papoter, et que la vieille personne, soit la maman qui venait d'accoucher, soit l'interné en psychiatrie commençait à me dire, hein, évidemment que j'allais prendre ce temps, évidemment que c'était pour moi donner un sens à faire le ménage, d'autant plus dans un milieu hospitalier. Donc, évidemment, je ne mettais pas un quart d'heure pour faire la chambre, je mettais 25 minutes. Donc, je terminais jamais à l'heure, je m'activais dans les dernières chambres. Et voilà. Donc, au bout de quelques temps, on me faisait évidemment la réflexion, comment ça se fait, tu vas pas assez vite, etc., etc. Parce que je dépassais ma fonction. Alors après, je me questionnais évidemment sur les gens qui étaient là à demeure. Moi, j'étais là pour 2 mois. Je faisais que passer. J'avais une autre... Enfin, tout ça faisait sens, évidemment, pour moi. J'essayais d'en tirer le maximum de sens. Mais les femmes de ménage qui sont dans des milieux hospitaliers, par exemple, à l'année, que ce soit les infirmiers, les médecins, qui auraient envie de passer, je pense, plus de temps avec les patients, de pouvoir être dans un rapport, justement. Ce temps qui n'est pas un temps de travail à proprement parler, qui n'est pas un temps d'auscultation, qui n'est pas un temps de soins, mais qui est un temps de soins, évidemment, puisqu'on parle aux patients, où on va, voilà, on va apporter ce petit plus de travail. Enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer, parce que c'est vrai que je travaille plus là-dedans. Enfin, voilà. Mais bon, voilà, c'était juste pour faire écho par rapport à ce que vous disiez et pour partager très petite expérience avant d'être intermittente du spectacle, d'avoir été femme de ménage. Donc c'est un petit peu la même chose, c'est le postier qui va faire un petit peu de social et qui va apporter un petit plus dans son travail, c'est la femme de ménage qui va peut-être parler aux patients, voilà. Donc après, pour reparler de la politique, excusez-moi, je monopolise un peu la conversation, mais bien sûr que quand on va réduire les effectifs, la personne qui sera doublement harassée de travail n'aura plus la possibilité de réinventer son travail et de redonner un sens comme ça. Quand on fait par exemple appel à des entreprises de sous-traitance, parce que maintenant je sais qu'à l'hôpital on fait appel à des entreprises de sous-traitance pour le ménage, ces personnes-là sont un petit peu se sentent un petit peu exclues du service dans lequel elles sont, puisqu'elles n'ont pas le même engagement que le reste de l'équipe, le reste du staff, infirmiers, médecins, aides-soignants. Et donc, cette réinvention du métier n'est peut-être plus possible aussi, parce que ça dépend de comment elles... Enfin, bon, voilà, je ne sais pas si quelqu'un peut rebondir, ou vous.
Alors, je ne sais pas si je vais rebondir. Enfin, je vais essayer. Non, je voulais parler de deux choses. Là. Ça reprend un peu ça sur le temps informel. Sur la réalisation, je rebondis un peu sur la réalisation personnelle, dans les cursus divers et variés. Cette réalisation n'est pas très peu prise en compte, en fait. Donc, ce qui fait que moi, enfin, je ne voulais pas parler de ça au début, mais bon, je vais y venir. Moi, dans mes études, j'ai fait des études bon, plus ou moins longues, enfin, bac plus 5. Et au bout de mon bac plus 5, mes projets, c'était gagner de l'argent, me réaliser, entre guillemets, mais pas dans le sens bien-être, me réaliser en tant qu'être social, quoi. Et au bout de mon stage, en fait, dans une grande entreprise, je me trouvais en train de pianoter en rapport au clavier, super. Et au lieu de faire mon mémoire de DEA, en fait, je faisais des poèmes. Enfin, en fait, je commençais à écrire, mais pas du tout ce que je devais écrire au départ, quoi. Et je me retrouve dans une situation où le monde du travail m'a paru complètement étranger. C'est-à-dire que voilà, je me retrouve dans un monde qui ne me correspondait pas du tout. Enfin, qu'est-ce que je fais là dans mon bureau, avec les stagiaires, ne m'intéresse plus, quoi. Enfin, il y avait quelque chose de complètement, comment je pourrais dire ça, une distorsion, quoi, entre ma projection comme ça d'un idéal d'être acteur social dans la vie et me retrouver comme ça dans un poste, dans une boîte. Que faire, quoi? Voilà. Donc ça, je rebondis sur le côté réalisation qui n'est pas du tout pris en compte dans la gestion prévisionnelle, entre guillemets, des emplois et des compétences, ou on peut dire les réorientations ou orientations dans les métiers de conseil, de social, etc. Et ça pose un problème. Parce qu'en fin de compte, quand on parle par exemple de redirection ou dans la formation professionnelle, enfin dans l'adaptation d'un emploi par exemple par rapport à, je ne sais pas, par exemple chez France Télécom, on voit qu'il y a des gens qui étaient, par exemple, au 10-14. Enfin, voilà, on répond à quelqu'un qui va appeler pour un renseignement. Et on redirige ces personnes sans la préoccupation, en fait, de leur réalisation. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont envie, en fait, compte. On ne fait pas de diagnostic. On fait l'économie du diagnostic de l'être, de l'individu, en fait, de la personne, dont peut-être une partie serait susceptible, éventuellement, de pouvoir... être adaptable, enfin, ou au moins s'adapter à un métier un peu différent, évolutif, comme Orange, par exemple. J'ai travaillé, d'ailleurs, du reste. Et on voit que ça mène à une catastrophe, quoi. Donc moi, avec ma petite expérience d'individuel, je me rends compte que j'ai réussi, moi, personnellement, à rebondir dans diverses choses, avec une capacité d'adaptation qui fait peut-être partie de qu'est-ce qu'est un être humain, quoi, c'est-à-dire qu'il a une capacité à s'adapter. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde dans une obligation, je veux dire, de fonction, pour reparler de la fonction, de fonctionnaire, qui n'a pas vraiment le choix à 50 ans ou 50... moi, j'avais 26 ans, donc la vie était encore à peu près devant moi. Mais à 50 ans, la question est là. Donc, je ne sais pas si... peut-être que je balaye un peu tout, là, mais... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc ça, et le par rapport au temps informel, le bien-être... C'est-à-dire le bien-être n'est pas incorporé en fait véritablement dans les fonctions qui pourraient être éventuellement liées à la population publique, quoi. C'est-à-dire contact du public. Quelle est la partie incorporée Est-ce que c'est pris en compte dans justement cette gestion, ce diagnostic des emplois? Est-ce que ce temps informel, est-ce qu'il doit être détruit? Est-ce qu'il doit être conservé? Qui est capable de dire Est-ce qu'il y a des débats comme ça qui sont organisés en amont sur des, je sais pas, sur ce train-là? Voilà, je sais pas. Donc, je vais juste finir par moi, enfin par ma fonction aujourd'hui, enfin une de mes fonctions, enfin de mon métier. Donc, comme ça, j'aurais fait le tour pour parler de l'intime et du travail manuel, en fait, parce qu'on a l'impression qu'il y a un regroupement comme ça de personnes un peu intellectuelles entre guillemets ou de culture en tout cas. On peut être aussi quelqu'un qui s'intéresse à la culture et ne pas travailler dans la culture ou ne pas avoir une représentation directe, comme moi par exemple. Moi je suis une sorte de travail manuel, puisque je suis masseur en fait. Enfin, disons que c'est une de mes activités. Et pour parler de l'intime, parce que y avait, ça m'a un peu pas choqué, mais quand on parle d'objets, de classement d'objets, et qu'on parle de choses sexuées comme ça par rapport aux objets, ça m'a interpellé, quoi. c'est pas ce que tout de suite on se comprend. Mais finalement, c'est pas bête, quoi, parce qu'il y a même dans les articles, qu'on distingue entre une et un, c'est déjà ça. Enfin, donc, moi, dans mon activité, en fait, je touche les gens, quoi. Donc effectivement, moi je suis déjà dans l'intime tout de suite, enfin quasiment. Moi ma question c'est pas, c'est l'inverse, c'est comment je vais pas être dans l'intime quoi, trop. Parce qu'effectivement il y a ce rapport à bon, comment je pourrais dire ça. Il y a ce rapport à pas une résistance, mais bon on peut pas non plus les. Une personne arrive, on la connaît peu ou pas, se déshabille et à un moment donné il faut voilà créer une distance. Moi c'est un peu l'inverse moi. Je suis obligé de en permanence de créer des distances. Donc après bon. Ça peut éventuellement s'atténuer avec la parole, on commence à parler aux gens, donc il y a un rapport social qui s'instaure. Et donc moi, dans mon je vais essayer d'aller vite, pour finir, au niveau de ce rapport, de cette invention du métier, enfin en tout cas de l'activité, ça m'a un petit peu fait, disons que ça m'a un peu touché, parce que je me suis dit, je réinvente un peu, quelque part, tous les jours mon métier, quel est le rapport entre... toucher les gens et leur parler quoi. Est-ce qu'il y a des fois des gens qui veulent pas parler, donc on touche les gens pendant une heure sans leur parler, des gens qui veulent parler ou des gens qui voilà. Donc il y a un repositionnement voilà entre ça, ce qui m'amène aujourd'hui en fait à plus savoir trop si je suis masseur ou psy quoi, parce qu'il y a des il y a quand même une sorte de enfin psy entre guillemets quoi. Donc il y a quand même un rapport comme ça à une demande de du corps, mais aussi une demande du psychisme, en fait. Voilà. D'où, en fait, c'est pour ça que je me suis intéressé un peu à la psy, et puis je me suis inscrit au CNAM, en fait. Voilà, donc je fais un peu le tour, là. Je ne sais pas qui veut rebondir par rapport à ça, j'ai été un peu rapide, mais...
Merci. Non, je ne vais pas rebondir, peut-être pas, je ne sais pas, peut-être, sur ce que vous venez de dire, mais j'avais une question à vous poser, en fait. Et quand je vois qu'il commence à être tard et que je ne sais pas si j'aurai le temps de poser ma question, voilà. je me posais la question de savoir, en fait, pour rebondir sur ce que vous disiez concernant la question du temps de parole, c'est donc on parle aujourd'hui du délitement des collectifs de travail, du taux de syndicalisme qui est très faible en France, un des plus faibles d'Europe, enfin non. On voit bien voilà, qu'il y a des processus d'individualisation du travail dont vous avez parlé. Donc je me pose la question, dans ce contexte, la possibilité donc, de faire émerger ce que vous dites, de ces temps de parole, comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'organiser, dans quel espace, et comment est-ce que c'est une prise de conscience individuelle qu'on doit tous savoir pour redémarrer sur des choses collectives, je ne sais pas. Donc je vais vous parler donc de moi, puisqu'on est dans ce type d'exercice. Moi, je sais que dans ma profession, je fantasme à fond sur la question des collectifs, du travail en collectif, en groupe. C'est vrai que c'est une orientation, c'est important qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans nos métiers, donc du social, qui est de développer les actions collectives, etc. Mais je me rends compte qu'on ne sait pas faire. Quand bien même on a eu des modules de cours pendant nos formations là-dessus, on ne sait pas spécialement faire. Et donc, j'ai eu la chance donc, dernièrement donc, que mon employeur me permette la participation à un atelier d'écriture sur mon métier, où j'ai pu parler donc, de mon métier au travers de l'écriture. Et c'est vrai qu'on en est maintenant à une étape qui succède à l'écriture, qui est la production d'une production écrite. Hein. Et donc là, on est effectivement complètement dans la création, dans le travail de collectif, d'équipe. Enfin, si je peux parler d'équipe, on n'est pas vraiment dans une équipe, on est différent. Enfin, dans une équipe de travail, comme j'aurais pu m'imaginer, mais on fait un travail de groupe sur une production écrite. Et là, pour le coup, je me rends compte que je suis en train de connaître ce qu'est travailler vraiment avec d'autres, en fait. Mais ça m'était, depuis plus de 10 ans que je fais ce métier, ça m'était encore jamais vraiment arrivé. Voilà.
Peut-être qu'il y a un mot là-dessus. aussi sur la question de la politique, parce que là, on est un peu là-dessus aussi. Hein. On a parlé de France Télécom. Bon, c'est un bon exemple. Parce que en France Télécom, on peut faire assez vite, on va se mettre d'accord sur avec tout ce qui est fait au personnel de France Télécom, eh bien, on se trouve dans la situation où on se trouve, quoi, hein, pour y faire des diagnostics assez partagés, assez vite. Destruction des collectifs, management individuel, bon, on connaît ces diagnostics, comment dire, rebattus, le discours convenu sur des organisations qui engendrent la souffrance, et ainsi de suite. Bon, je vais repartir d'un exemple concret. Récemment, il y a, avant la vague de suicides à France Télécom, j'ai été amené à travailler dans cette entreprise-là, et on faisait un travail avec je ne dis pas un collectif, je vais dire un groupe. Parce qu'un groupe et un collectif, ce n'est pas tout à fait la même chose, quoi. Enfin, en tout cas, un groupe d'opérateurs sur les centres d'appel, qui étaient précisément de ceux que vous évoquiez, qui avaient été là, mis, non pas d'ailleurs parce qu'on ne s'est pas donné la peine de faire le diagnostic, mais parce qu'on a décidé de faire comme ça. Hein. Je veux dire, il ne faut avoir aucune naïveté sociale, quand même. Hein. On n'est pas dans l'idée de, on aurait raté quelque chose. Non, c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, on est dans des situations très contraintes. On les met dans des situations extrêmement difficiles. Bon, et alors, en travaillant avec ce groupe, voilà que l'un d'entre eux dit, en riant, mais c'était un rire jaune. Aujourd'hui, j'ai même réussi à vendre une ligne Internet à quelqu'un qui n'avait pas d'ordinateur, provoquant autour de lui, dans le groupe qui était là, de ses collègues de travail, un rire jaune aussi, qu'on peut appeler un rire nerveux, qui est, du point de vue un peu clinique, qui est mon métier, hein, assez intéressant, parce que c'était un rire jaune et un rire nerveux, qui était un rire de quelqu'un qui avait... d'une certaine manière, c'était un rire de protestation. C'est une manière de dire, bah, vous avez voulu nous transformer en robots, bah, voyez, on est même capable de l'être encore plus que vous ne croyez. C'est-à-dire, au fond, récupérer sa dignité par une sorte d'inversion. Et ça faisait rire comme ça. Eh ben, ce que je voudrais dire, c'est que ce rire-là, c'est le début de la psychopathologie du travail, quoi. C'est vraiment le début de la psychopathologie du travail, parce que c'est le moment où, entre collègues de travail, on ne peut même plus se dire, ça, il ne faut pas le faire. Et la question du collectif que vous posez, qui est une vraie question politique, hein, c'est bien sûr, on peut expliquer qu'on en arrive là. Mais on ne peut pas complètement expliquer qu'on en arrive là si on ne fait pas cette hypothèse absurde que des professionnels dans cette situation, au bout d'un moment, consentent à faire ça et ne peuvent même plus se reconnaître dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'une fois rentré chez soi, on ne peut plus raconter ça à ses enfants. Et quand on est dans cette situation-là, on n'est pas loin de ces situations de déréliction qui conduisent à des drames. Le vrai problème, il est là. C'est-à-dire, comment on accepte ou pas à franchir la ligne jaune d'un travail dans lequel on peut se reconnaître, quoi. Et la question qui se pose, pour moi, c'est la seule question qui se pose. C'est comment les organisations syndicales... Il y a peut-être des syndicalistes dans la salle, mais moi, ça m'intéresse beaucoup comme question. J'en discute d'ailleurs avec eux. Comment les organisations syndicales ont pu s'intéresser autant à devenir des observateurs de la souffrance au travail, et comment elles ont pu laisser passer l'installation de ces manières de faire dans les centres d'appel. Il y a des lignes jaunes qui ont été transgressées. Et la question qui se pose, c'est quand on veut refaire du collectif, c'est pour repartir de là, parce qu'on ne peut pas faire du collectif si on ne repart pas de cette tragédie du travail piétiné. D'autant qu'en plus, ce travail piétiné-là, il est piétiné pour des usagers, que nous sommes beaucoup, tout le monde a fait l'expérience des rapports avec France Télécom sur ces questions-là. Hein. Donc il y a une attente très très forte sur le public de quelque chose, d'un service qui tienne à peu près la route. Et on a d'autre côté des salariés qui sont dans une activité, j'allais dire, ravalée, quoi, hein, parce que ça reste sur l'estomac, des choses comme ça. Eh bien, si on ne repart pas de là, il n'y a pas de politique possible. À mon avis, il n'y a pas de politique possible, parce qu'on peut toujours se plaindre en disant si on ne nous faisait pas ça, ça irait beaucoup mieux. Mais si on ne repart pas dans la situation où nous sommes, parce que cette situation-là, elle est emblématique, ça se pose dans beaucoup d'endroits, ces questions-là. Si on ne repart pas de la controverse nécessaire entre collègues de travail sur ces questions-là, c'est-à-dire sur qu'est-ce que c'est ou pas le travail de qualité, qu'est-ce que c'est que de faire du bon boulot. Si on ne remet pas la question du métier au centre comme ça, la politique est déracinée. Je me souviens d'une très très belle phrase de Proust, hein, on est très loin de France Télécom, mais très près, où il disait « la seule manière de défendre la langue, c'est de s'y attaquer ». en matière d'attaque de la langue, Proust, il a montré l'exemple. Hein. Il a fait son métier, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il a réinventé, pas tout seul, mais à sa manière à lui, il a réinventé la langue. Et bien, je pense qu'on est tous dans la même situation. Et que la politique, elle commence là. Quand on commence à être dans des situations où les activités professionnelles sont piétinées à ce point-là, quand on commence à être dans des situations où, au fond, la dignité de ce qu'on fait est à ce point attaquée, et que du coup, on peut même fabriquer des sortes de collectifs un peu passifs, quoi, complètement impuissants, dans lesquels on commence à se moquer de soi-même dans des situations de ce type-là. C'est plus du collectif qu'on fabrique, c'est de la collection, quoi. Hein, c'est vraiment de la collection, c'est du groupe. C'est extrêmement dangereux pour la santé, c'est dramatique pour l'efficacité à long terme, hein, pas pour la rentabilité, c'est pas la même chose. Mais s'il peut y avoir du collectif qui se reforme, à mon avis, c'est sur la base d'un travail sur ce genre de tragédie quotidienne. Et des tragédies quotidiennes de ce type-là, il y en a beaucoup, 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 sur lesquelles, petit à petit, on apprend à fermer les yeux, quoi. Et on n'arrive plus à dire à son collègue, là, ça, c'est pas du boulot, on peut pas faire ça. Parce que si le syndicalisme s'occupait de ces questions-là, vraiment, peut-être qu'on aurait un autre rapport à la politique. Il y aurait peut-être du collectif. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le collectif, c'est l'acceptation du désaccord. Ce n'est pas se mettre d'accord pour fermer les yeux et se plaindre. Parce que ça, ce n'est pas du collectif, hein, c'est du groupe. C'est l'acceptation de pouvoir supporter, de s'engueuler entre collègues de travail sur la qualité du travail qu'on fait, quoi. Si on ne revient pas à ça, c'est pas du collectif qu'on a, hein, c'est de la plainte, quoi. Et avec de la plainte, on ne change pas le monde. On change quand on a commencé à accepter le conflit en regardant le fait que le conflit, ce n'est pas mortel. Si on ne fait pas cette expérience-là, il n'y aura pas de collectif. Donc, à votre question du collectif, vous voyez, je réponds par une critique de l'idée classique du collectif, qui est un collectif où on s'entend. Et dans beaucoup de situations de travail à l'heure actuelle, on s'entend sur une chose dramatique, on parle de tout sauf du travail qu'on fait. Et parfois, on arrive à bien s'entendre. Hein. On arrive même au fameux vivre ensemble correct. Hein. Pour moi, c'est du laborieusement correct. C'est-à-dire, on ferme les yeux sur ce qui fait problème dans le travail qu'on fait, même en acceptant finalement de critiquer ceux qui nous font ça. Mais on fait quoi, nous, sur le travail qu'on fait? Je pense que ça, c'est une question politique majeure. Et si on ne la pose pas, ben, c'est la politique qui meurt, quoi. Et le collectif avec. Hein.
Oui, là-bas.
Oui, je pense que votre vision du syndicalisme, enfin, quand vous dites le syndicaliste ne fait pas son boulot quelque part, c'est qu'en termes de syndicalisme, vous dites dans un collectif de travail, les personnes devraient se veiller les unes sur les autres à ce que le travail qui soit fait soit correct et un travail dans lequel on puisse se reconnaître, etc. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, le syndicaliste, il n'est pas collègue de travail. C'est un homme d'appareil ou une femme d'appareil. Et ils sont très loin, souvent, des collectifs de travail. Alors ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, je pense à une situation. Moi, je suis syndicaliste et je suis amenée à travailler dans les CHSCT, et, voilà, dans une entreprise qui va très mal. Pas France Télécom, mais à peu près la même. Et de fait... justement, quand on est syndicaliste, il faut s'imprégner des situations de travail pour comprendre ce qui se passe, en fait. Et si on n'a pas été sur le terrain, si on n'a pas discuté avec les gens, on ne comprend pas bien. Moi, par exemple, j'étais amenée à avoir une situation où une personne devait contacter dans la matinée 14 autres personnes par téléphone et faire des entretiens téléphoniques. Et du coup, donc, je vais sur ce lieu de travail où, par ailleurs, ça avait castagné. Enfin, le public avait frappé. Enfin, quelqu'un du public avait frappé une personne, etc. Donc, on y était pour d'autres raisons. Et le collègue me dit, ben voilà, je dois 14 personnes la matinée. J'ai des rendez-vous, etc. Et alors, je dis, ben écoute, je comprends pas. Vous avez pas de pause, vous avez pas. Alors, il me dit, ben non, on peut pas faire de pause. Ben, je dis, tu laisses tomber ton téléphone. Et puis, moi, naïvement, je pensais qu'il pouvait prendre sa pause quand il en avait envie, etc. Mais non, c'est beaucoup plus pervers que ça, les systèmes qui sont mis en place. C'est que la personne, elle peut pas prendre sa pause parce que si elle prend sa pause, la personne, en l'occurrence, ce sont des demandeurs d'emploi qui sont appelés au téléphone, hein, On lui, en fait, le demandeur d'emploi, lui, reçu un courrier en disant Monsieur Untel vous appellera à telle heure. Ben, si Monsieur Untel l'a pas appelé à telle heure, le demandeur d'emploi il n'est pas content parce qu'il a autre chose à faire, il a aussi d'autres actions à mener, etc. Donc il appelle un numéro unique où il proteste en disant Monsieur Machin ne m'a pas appelé à telle heure et moi je dois partir, etc. Donc ça lui retombe dessus. Donc les gens étaient amenés à être comme ça, attachés à leur poste. Voilà, 14 entretiens dans la matinée, et c'est sans arrêt, avec un certain nombre de questions à poser, etc. Et jusqu'à ce qu'on intervienne, en fait, et qu'on dise c'est pas possible, c'est pas légal par rapport au code du travail, etc., vous pouvez pas leur faire faire ça, etc., et ben, la situation perdurait, quoi. Et les gens ont du mal à se défendre eux-mêmes aussi. On a l'impression qu'ils sont capables d'accepter une dose d'injustice et de situation où justement leur travail n'a pas de sens, qui est vraiment fort, quoi. Et à côté, le syndicaliste, il a un poids limité aussi, et il peut agir quand il comprend sur le terrain de quoi il s'agit exactement, quoi.
D'accord, mais vous avez défini deux syndicalismes possibles, hein. L'appareil et celui que vous avez indiqué là. Mettons toutes les forces de ce côté-là, ça va produire des effets.
En fait, je trouve ça bien qu'on parle de ces questions d'invisibilité. Enfin, moi, simplement, j'aimerais bien qu'on tienne les deux bouts sur la question de la culture, de l'invisibilité. L'invisibilité du travail qui perd son sens et qui perd son contenu et qui, j'irais même, perd non seulement ses règles de l'art, mais perd son âme. On parlait de France Télécom, mais on a d'autres exemples. Enfin, tu disais qu'il y en a beaucoup, mais ça serait pas mal d'en citer des gros et des petits. Les gros, c'est par exemple, je ne vais pas citer des marques, mais une entreprise qui se vante d'être très bonne en maintenance, en réparation de vos appareils électroménagers, et qui recommande à ses réparateurs de ne pas réparer, et qui leur donne des primes si elles ne réparent pas, et des primes si elles arrivent à vendre un appareil neuf à la place de... Donc c'est le type, il a été engagé avec un CAP d'électrotechnicien ou d'électricien ou d'électronicien, et progressivement, on lui demande de ne pas faire son travail. Donc ça produit évidemment... c'est une négation complète de son... Mais c'est la même chose de l'agent immobilier qui sait qu'il loue quelque chose d'immonde. C'est la même chose que la personne à qui on demande de charger dans la banquette des produits d'un Franprix, des produits dont elle sait très bien qu'ils sont périmés, qu'elle les met à l'avant pour qu'ils partent plus vite que ceux qui sont à l'arrière et qui sont, eux, des dates plus loin. Donc elle sait qu'elle est en train de charger des produits qui devront partir à tout prix et qui sont périmés, etc. Donc ça, c'est les choses qui sont grosses, qui sont évidentes. Et puis, simplement, si on regarde bien chacun dans notre travail, toute cette partie... cette partie invisible des choses qui sont mal faites ou dont on sait très bien que c'est pas possible d'avoir mis ce temps à les faire, ou c'est pas possible d'avoir répondu comme ça, ou c'est pas possible de se faire croire qu'on y met le temps qu'on y fait. C'est la même chose. Enfin, pour moi, je voudrais qu'on tienne les deux bouts, parce que ça, c'est la partie un peu terrible de la déliquescence du travail dont parlait Yves. Mais c'est la même chose que l'invisibilité qu'on a de cet aspect positif que j'essayais de mettre en avant dans le début de la discussion, à savoir, je vois ce chauffeur de bus et dont les yeux font ça tout le temps, partout, dans tous les sens, un peu comme la personne qui regarde le tableau. Et je lui parle après, je lui dis, mais pourquoi vous bougez les yeux tout le temps sans arrêt? Il me fait, ah bon, ben non, je bouge pas les yeux. Et petit à petit, en parlant avec lui dans la durée, je me rends compte qu'il a à gérer un truc qui fait 11 tonnes, qui fait 12 mètres de long, et dans lequel il y a 4 visibilités. Il faut qu'il regarde à l'intérieur pour vérifier que les gens vont rester debout, qu'il n'y a pas une personne âgée, qu'il n'y a pas une poussette, je sais pas quoi, comment on démarre, comment on freine, comment il fait ses virages. Il faut qu'il regarde à l'extérieur dans les rétroviseurs, et il en a 3, à droite, à gauche, parce que maintenant il y a des vélos à gauche il y a des voitures, et il y a des gens qui... Et puis il y a tous les gens qui veulent attraper le bus quand il a déjà démarré, ou qui veulent le freiner, donc se mettre devant lui pour l'obliger à s'arrêter pour l'attraper. Et puis, il y a toute sa machine Donc il a un rétroviseur intérieur, un rétroviseur extérieur, le rétroviseur intérieur, toute sa machine. Et finalement, qui est une énorme bécane, et tout ça est complètement inconscient. Quand ils ont des années d'expérience, ils n'arrivent pratiquement plus à formaliser tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que tout ça est devenu invisible, et c'est devenu invisible pour eux, donc c'est devenu invisible aussi pour leur cadre. C'est-à-dire que le fait qu'eux-mêmes n'ont plus conscience de la somme de l'expérience et de leur savoir-faire qui est complètement sensible, qui est vraiment de l'ordre de l'inconscient sensible, je pense qu'un prof aussi peut se dire qu'à un moment donné, il transmet des choses qui le transcendent. Enfin, il y a une part de notre travail qui nous sublime. À force de ne pas savoir ce que nous faisons, de ne pas être capable de le formuler, de le théoriser, de le syndicaliser, au-dessus de nous, des cadres et des bureaucrates ne le savent pas non plus. Et donc peuvent modifier notre travail, peuvent modifier nos commandes, sans savoir qu'ils tuent des choses très importantes de nos savoir-faire, de nos sensibilités, de nos façons de penser, ou qui tuent les moments de pensée, ou qui tuent les moments de parole, ou qui tuent les moments d'appropriation, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance, mais ils ne l'ont pas parce que nous ne l'avons pas, et parce que nous ne faisons pas ce travail de visibilité de notre culture du travail. Et je voudrais donner un autre exemple, dans l'usine Omet, qui est une usine qui est proche de la SNECMA, dans laquelle ils fabriquent des moteurs d'avion, des réacteurs et des choses pour Ariane 5, dans lequel j'ai travaillé. Il y avait des dames et des hommes qui étaient au contrôle des pales de rotors d'avion. J'étais étonné que ces contrôles se fassent à l'œil. Je pensais que ça se faisait avec des radiographies, du métal, etc. Parce que c'est des métaux qui doivent atteindre des vitesses très grandes et qui doivent chauffer à des températures terribles. Et il y a une des façons... Alors, il y a évidemment des contrôles parfois par radiographie ou par électromagnétisme, etc. Mais il y a beaucoup de contrôles visuels. Et une pièce, en gros, subit 7 contrôles à la suite. Il y a une opération qui est faite dessus, puis un contrôle. Une nouvelle opération et un contrôle. Et chacun de ces contrôles, c'est une personne qui les contrôle. Et en me penchant sur ces contrôles, que j'ai d'ailleurs beaucoup filmé, j'ai remarqué deux attitudes. Je pense à une dame qui regardait des petites pièces de cire dans lesquelles il y avait des petits trous. Et elle les regardait et elle les posait. Et je lui disais, comment ça se passe la vérification? Est-ce que vous comptez les trous? Est-ce que vous regardez la forme? Il y avait un nombre de trous imposés, mais il y avait la grosseur des trous. Et puis il y avait, elle m'a expliqué en détail, c'était incroyable le nombre de choses qu'elle regardait dans les trous, qui devaient être un peu incurvées, et puis la forme générale, etc. En fait, à force de parler avec elle sur la façon dont elle l'appréhendait, ce contrôle, son contrôle était inconscient. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous arrivez à un feu rouge, soit vous faites ça, vous regardez à droite, à gauche, ça c'est la vision rationnelle. Soit vous regardez en face, c'est la vision, je dirais, sublimée, et vous avez conscience, vous avez déjà fait ça, vous avez conscience qu'il n'y a personne à droite et à gauche, ou qu'il y a quelqu'un à droite. Vous n'avez pas besoin de tourner la tête pour le voir. Et en fait, j'ai vu ça aussi chez des infirmières qui ont une façon d'écouter, de sélectionner dans les sons, qui écoutent à distance des bips, des respirations, etc., et qui savent exactement où est-ce qu'il en est de leur patient, sans avoir besoin d'aller sur place pour écouter. C'est-à-dire qu'ils ont une acuité auditive qui leur permet de décoder des variations dans l'environnement sonore, qui leur donne des alertes sur des comportements des patients. Et là, cette femme disait, non, moi je regarde la pièce et en un coup d'œil, j'ai une sorte de synthèse, j'ai intégré toute la rationalité du contrôle, je l'ai transformée en photographie en fait, hein, et elle fait un scan qui est presque inconscient. Et elle me disait, même d'ailleurs souvent quand j'ai un doute, j'appelle mon chef. Et on l'a noté parce qu'on a écrit un petit livre sur tout ça. Et le chef dit, moi je ne vois rien, je vous fais confiance. C'est-à-dire que l'analyse rationnelle du défaut n'est pas possible. Enfin, elle n'est pas possible. Si, elle est possible, elle fait quand même une analyse rationnelle. Mais c'est simplement l'accumulation de l'expérience qui fait qu'elle est capable de voir ce que personne d'autre ne peut voir qui n'aurait pas eu cette expérience. C'est-à-dire c'est le fait d'en avoir vu 100 000 qui lui permet de voir la 101e millième. Et celui qui en a vu que 50 000 ne verra pas cette 101e. Eh bien, cette invisibilité du travail, cette conscience du travail, pour moi, elle est la culture du travail, elle est ce qui fonde le travailleur en tant qu'être pensant et sentant. Et si on ne se bat pas pour la visibilité de cette capacité incroyable d'être à son travail, on n'arrivera pas à se battre pour lui. Et on laissera des personnes modifier nos cahiers des charges, modifier nos conditions de travail, sans se rendre compte qu'ils en modifient en très en profondeur le sens et nos capacités d'appropriation, etc. Et je pense à un autre contrôleur qui, lui, regardait pendant des heures la même chose. Alors lui, c'était l'inverse. Lui, il regardait, c'est celui dont on voit l'œil pendant très longtemps. Lui, il fixe une pale et il la fixe une minute. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il voit ? Et on a filmé son œil en très gros plan pour voir si son œil bougeait. Son œil ne bouge pas. Il reste fixé sur la pale, comme ça. Et on se dit, mais c'est quoi ? C'est un truc mystique, quoi. C'est un truc, c'est une sorte de tétanisation. Il est fatigué, alors il se repose, quoi. Eh bien, pas du tout. C'est une très, très, très grande concentration qui fait vraiment, moi, qui m'a fait penser, enfin, qui m'a renvoyé à la mienne, à une concentration artistique, à un moment donné où on pense une structure. Et aussi, on décroche pendant 5 minutes. Par exemple, moi, si quand le téléphone sonne, quand je suis dans certains passages d'écriture, eh ben, je peux mettre 2-3 heures à retrouver ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire que c'est un niveau de concentration qui est très, très profond et qui fait qu'il ne faut pas en sortir. Et si on en sort, eh ben, il faut se reconditionner pour rentrer à l'intérieur. Mais toutes ces choses-là, mon avis, c'est cette qualité d'imprégnation, d'habillage, quoi, quand on habille un travail. Cette qualité-là, cette chose dont nous n'avons pas conscience, qui fait notre incroyable qualité, enfin, c'est l'essence du travail. Si on arrive à lui donner de la visibilité, c'est ça que j'essaye de faire dans un groupe qui s'appelle Être juste dans son travail. Et on voudrait faire des entretiens entre les gens, parce que l'idée, c'était de faire une manif dans 1 an ou 2 avec des tas de gens qui ont parlé de ça, qui ont parlé de ce qu'ils arrivent à mettre dans le travail. Et qu'on voit un jour dans une manif dans la rue, je ne sais pas combien, 100 000 personnes qui ne se battent plus pour l'argent, pour le temps, pour je ne sais pas quoi, mais qui se battent pour dire « J'ai regardé ma pièce pendant 1 minute sans que mon œil ait bougé. Je sais regarder une pièce complexe en une seconde et je peux dire tout ce qui se passe dedans sans avoir besoin de la regarder dans 5 minutes. Je suis... Enfin, c'est toute cette... et qu'on puisse dire à nos cadres et qu'on puisse dire même à nos jeunes qui cherchent des emplois... Le travail, le travail, c'est que de la culture. Le travail, c'est que des corps. C'est des corps qui pensent et qui sentent. Et si ce n'est pas ça, alors il ne faut pas le faire. Et si à un moment donné, il faut se battre pour que ça soit ça. Je ne sais pas quelle heure il est, mais... Ce serait bien que, enfin, je ne sais pas s'il y en a qui veulent.
Je me rappelle aussi d'une histoire, c'est l'histoire de l'usine Lu, les petits biscuits. Elle avait travaillé avec les opératrices et.
Plus avance.
Hein, et ensuite, on a fermé cette usine, quoi. Et elle disait à peu près 9 mois avant qu'on ferme l'usine. L'odeur a changé des biscuits qu'on fabriquait. Et on a très vite compris que l'odeur avait changé parce qu'on ne mettait plus les mêmes produits dans les biscuits. Vous en avez sûrement mangé de ces biscuits qui n'avaient pas la même odeur au moment de la fabrication, quoi. Et à peu près 9 mois après, donc Danone a annoncé la fermeture de l'usine. Il y a eu une très grande lutte, quoi. Ça a duré... Et je me rappelle, on était dans un travail, il y avait trois opératrices de chaîne, quoi. Et à un moment donné, l'une d'entre elles a dit, c'est quand l'odeur a changé qu'on aurait dû faire grève, quoi. Et là, elle s'est mise à pleurer. Je pense qu'effectivement, quand on sera capable de faire des grèves pour les odeurs, on sera beaucoup plus fort, quoi. C'est exactement le même problème, quoi. Mais encore faut-il accepter que le vrai enjeu politique, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir accepter de se faire couper en quatre sur des questions comme ça. Et pour ça, il faut pouvoir, entre collègues de travail, se parler de ça. Parce que si on oublie qu'on est ça, on commence finalement à accueillir le pire, quoi. Mais le problème, c'est que c'est pas spontané, hein, c'est pas spontané du tout de faire cet exercice-là. C'est-à-dire de s'habituer à mesurer à quel point on est bourré de capacités insoupçonnées et que ces capacités insoupçonnées, c'est justement ça qui fait notre force, quoi. vois pas bien où il y a une autre force possible que dans cette, finalement, dans cet inventaire à faire et à refaire, de ce pouvoir d'agir concret et en jachère en même temps, hein, parce que d'une certaine manière, ça le problème, c'est que comme on ne le soigne pas, ensuite c'est maltraité, quoi. C'est bien pourquoi moi j'ai vraiment l'habitude, actuellement on est complètement envahis par la plainte et par l'idée qu'il faut qu'on aille partout en bataillon, soigner les personnes en situation de travail, avec des bons psychologues ça devrait se résoudre, hein, voilà, des lignes d'appel téléphonique pour écouter les gens qui souffrent. Commençons par soigner le travail, quoi. Ça évitera d'avoir à soigner en cohorte des milliers de personnes. Hein. Seulement, voilà, soigner le travail, ça concerne aussi ceux qui le font. Et je pense que ça, c'est une chance extrêmement importante, que ça concerne aussi ceux qui le font. Donc, si on ne le soigne pas nous-mêmes, eh bien, il est maltraité par les autres. Je pense que c'est un peu ce que voulait dire Nicolas. Et c'est sur ce point, quand même, qu'on s'est trouvé, quoi. Hein. Si on ne soigne pas nous-mêmes, les autres le maltraitent. Voilà. Et c'est malheureusement une partie des choses qui nous arrivent quand même. Hein. On n'a pas assez soigné, quoi.
Alors, sans vouloir faire le mot de la fin, je vais retomber sur la solitude par rapport à justement ce consensus. Enfin, pas ce consensus, mais le fait de poser cette question dans le travail. Et j'ai juste un exemple personnel. Donc, je suis le cahier des charges. Je suis intermittente et à un moment donné, j'ai fait un stage sur la voix au micro et j'étais avec 7 ou 8 stagiaires sur donc, ce travail de la voix au micro. Et au bout du troisième ou quatrième jour, on nous a proposé d'étudier la publicité. Alors tout le monde a rigolé, c'est nul, nanana. Et la semaine d'après, il était question de faire un CD, un CD de démonstration. Et donc, j'ai simplement dit, donc moi, j'ai pas besoin parce que de toute façon, je ferai pas de pub. Ça m'intéresse pas, ça fait pas partie de mon travail. Et j'étais surprise parce que d'un seul coup, je me suis retrouvée très seule, pour une fois, parce que d'habitude, je me sens pas seule, je m'approprie mon travail. Parce que d'un seul coup, j'ai eu 7 personnes qui me disaient « Ah oui, mais, on est tous contre la pub, mais, il faut vivre, il faut ceci, etc. » Donc j'ai eu plein, je me suis sentie très, très seule, mais c'était vraiment la question, c'est quoi notre boulot, est-ce que ça en fait partie, surtout si on est contre, puisqu'ils étaient tous contre. Alors, oui, mais bon, on peut salir le monde pour le nettoyer ensuite, parce qu'on peut faire des beaux cachets et puis avec ça, et puis on peut faire des choses intéressantes après. Bon, enfin bon, j'étais quand même toute seule voilà, dans la question de se poser, c'est quoi le travail et c'est quoi notre travail. Voilà, après, on m'a dit, oui, mais c'est quand même un très bon savoir-faire. Alors effectivement, on peut. Il y avait beaucoup de savoir-faire. Je dis oui, même les marchands d'armes, ils ont beaucoup de savoir-faire aussi. Mais ce savoir-faire ne m'intéresse pas. Est-ce que ça fait partie de notre travail aussi? Voilà, c'était un détail de solitude, d'intime et de positionnement sur la question du travail.
Oui, moi je voulais juste intervenir et j'apprécie beaucoup le risque que vous prenez tous les deux à avoir envie qu'on livre chacun nos expériences. Et c'est vrai que, à mon sens, ça passe par redonner la parole à tous et que l'expertise, j'ai la sensation qu'elle est importante, mais que l'expertise qui se donne, elle empêche l'autre de développer la sienne propre. Et c'est en prenant des risques, tous, en acceptant ces solitudes, qu'on va avoir des appels d'air pour avoir du courage. Voilà, c'est juste ça, en passant.
J'ai trouvé tout à l'heure les propos un peu durs, parce que je pense que... Enfin, moi, je viens donc d'un milieu social, je suis comme la collègue, je suis assistante sociale, je suis nettement plus pessimiste qu'elle. Je trouve que dans le milieu, il y a vraiment une anesthésie de la pensée. Bon, je suis très influencée par ma formation au CNAM. Et que je pense que le courage, ce n'est pas quelque chose qu'on invente comme ça. Et que de plus en plus, le management est là pour justement faire tout, pour diviser et que les personnes se retrouvent seules par rapport au travail. Moi, ça fait un moment que je fais le métier d'assistant social en remplacement et ça, c'est une façon pour moi, en fait, pour me retirer du travail, c'est pas autre chose. Hein. Et c'est peut-être aussi une façon pour moi de pouvoir justement, résister mieux. Parce que en fait, je me suis rendu compte que si je compte sur mes collègues pour pouvoir justement dire les choses, c'est impossible. Parce qu'en fait, on en est arrivé où en fait tout le monde a peur, mais on le dit pas. Dans la plupart du temps, ils exagèrent. Et de plus en plus, ces fameux entretiens d'évaluation, donc ces fameux entretiens de notation, deviennent la plupart du temps un interrogatoire, ce n'est pas autre chose. Et donc, la responsable, qui est une ancienne assistante sociale, m'a dit « Oui, ce que tu as dit là, mais tout le monde était contre ce que tu as dit. Ce n'était pas du tout ça. » Enfin, je veux dire, c'était vraiment divisé pour régner. Alors moi, j'ai eu le malheur simplement de poser la question, parce que de plus en plus, on nous a demandé de faire du chiffre, de rendement au maximum. Et j'ai eu une certaine ruse de le dire, mais est-ce que faire ce métier-là, c'est que faire de la production ? Sur le moment, elle disait rien, elle attendait justement l'entretien d'évaluation, vraiment pour me dire que tous les autres ont pensé complètement à l'opposé de moi. Et c'est vrai que dans ce travail-là, si on est tout le temps à dire le contraire des autres, je pense qu'à un moment donné, c'est fur. Hein. Et si on reste, il faut savoir trouver des stratégies, des astuces pour résister clandestinement. Ce n'est pas autre chose. Voilà.
Je voudrais juste réagir, étant donné que nous sommes collègues. Je suis d'accord sur la question de la violence des institutions à notre égard. Moi, je n'ai pas d'autres comparatifs avec d'autres contextes de travail, quoique j'ai travaillé en milieu associatif et dans la fonction publique actuellement. Et je trouve qu'il y a effectivement une réelle violence. En tout cas, moi, je l'ai effectivement ressenti aussi vis-à-vis, je ne vais pas généraliser, des assistantes sociales, mais en tant qu'assistante sociale, effectivement, il y a effectivement beaucoup de fantasmes autour de notre métier, et, que ce soit en milieu associatif ou au sein même de la fonction publique. Je suis assez d'accord qu'on peut effectivement, dans le cadre d'entretien, être en décalage par rapport à des orientations de nos cadres, et c'est assez difficile, effectivement, de les affirmer. Donc, vous avez parlé d'anesthésie de la pensée. Moi, je pense que dans notre secteur, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté du point de vue des pratiques professionnelles, ni du point de vue de la transmission de ces pratiques, puisque je pense avoir été extrêmement bien formée dans le cadre de mes stages, puisque à l'époque, ce n'est plus le cas maintenant, mais nous avions 14 mois de stage avant d'intégrer la profession. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir des apports techniques extrêmement utiles, qui m'ont vraiment servi très vite dans mon métier et qui étaient vraiment de qualité. Je crois que le problème, il se situe à un autre niveau, je dirais plus que les travailleurs sociaux aujourd'hui, et du coup là j'englobe assistante sociale et tous les autres métiers, parce qu'aujourd'hui on parle de travailleurs sociaux, et est-ce un mal, ce serait une autre question, mais vraiment, de perdre des identités professionnelles aussi, c'est une grande question, je trouve. Je crois que c'est plus du point de vue du discours des travailleurs sociaux qu'aujourd'hui il y a un réel manque. Il n'y a pas vraiment de discours du social proprement dit. C'est un discours qui est traversé par différentes écoles, donc la psychologie, la psychosociologie, la sociologie, et je crois que le travail social en lui-même aujourd'hui n'a pas de discours, et on en revient par rapport à ce que vous disiez, par rapport à cette difficulté à théoriser, et je pense que cette difficulté est liée au manque de temps. Enfin, moi j'ai l'impression que depuis que je travaille, depuis 10 ans, que je suis tout le temps submergée. Je traite des choses, et pour tirer, sortir la tête du guidon, ça demande un effort considérable. Donc voilà, je vous ai donné un exemple sur cet atelier d'écriture que j'ai suivi dernièrement. C'est une des libertés que je me suis accordée dernièrement, et ça a été extrêmement rare depuis 10 ans, plus de 10 ans, 12 ans cette année que je travaille. Donc voilà, donc je vous avez parlé de résistance à la fin, résister je sais plus à quoi, mais oui, peut-être que oui, il faudrait entrer en résistance par rapport aux politiques aussi sociales qu'on nous demande d'appliquer, qui sont effectivement pensées malheureusement sans nous. Voilà.
Ouais.
Ouais. Moi, je voulais juste mettre en avant ou en débat, je sais pas, le côté hyper flexible en fait qui est mis par Luc Boutanski sur les nouvelles formes de l'ultra capitalisme. Donc on est là aussi la résistance à l'adaptation, parce que on est capable de s'adapter à beaucoup de choses, mais après c'est plus l'importance d'une responsabilité, d'une éthique. Donc pour moi, ça dépasse le côté de travail. Enfin, après, je pense que tout le monde ressent un peu la même chose. Sinon, si c'était intrinsèque au travail, pourquoi les managers et les cadres n'y seraient pas sensibles ? Est-ce que tous ceux qui dirigent et font semblant d'être insensibles à ça sont cyniques ou psychopathologue. Enfin voilà, je sais pas. Est-ce que vous avez une grille par rapport à là-dessus ou des amorces de compréhension ou juste affirmer des rapports de force, parce que c'est aussi des luttes de pouvoir qui sont très importantes. Quand il y a des pressions de partout, on voit bien chaque camp que prend les priorités de chacun.
Oui, c'est un peu peut-être les deux. Enfin, c'est pas des questions, c'est des discussions. Hein. Ce sont des questions importantes. C'est compliqué cette histoire-là. Mais bon, d'abord, je pense que vous dites que ça va au-delà du travail. Mais l'intérêt de la question du travail aujourd'hui, c'est que c'est le travail qui va au-delà du travail. C'est-à-dire que je pense que la question politique maintenant, elle est vraiment dedans. L'idée qu'il y aurait la sphère du travail et puis qu'à côté, il y aurait le problème de la politique, on voit bien, compte tenu de l'ampleur des drames qui se jouent, hein, qui se nouent sur cette question du travail, on voit bien que dans le travail, maintenant, tout est venu. C'est-à-dire que si on ne s'attaque pas à la question du travail, eh bien, y a vraiment un grand danger, quoi. Il y a vraiment un grand péril, parce que d'une certaine manière, la question des institutions, la question des finalités du genre humain, quoi, de la vie au sens large, des questions anthropologiques, maintenant, elles sont dedans. C'est comme si le travail avait attiré à lui, comme un attracteur, l'ensemble des problèmes. C'est pourquoi c'est vraiment un opérateur politique décisif. Alors, du coup, la question que vous soulevez de l'anesthésie de la pensée, c'est une question importante, parce que si on fait comme diagnostic qu'on est dans la situation actuelle, dans une anesthésie de la pensée, bon, ça va, on s'est réunis pour rien ce soir, et on tire le rideau. Ce n'est absolument pas mon hypothèse de travail. Je pense qu'on est dans une situation un peu différente. On est que c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de pensée, c'est parce qu'il y en a trop. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de dire là, mais c'est ressenti massivement partout. Autrement dit, il y a de la pensée remâchée, il y a de la pensée empêchée, il y a de la pensée ressassée, il y a de la pensée sur l'estomac, dans le corps. C'est bien parce qu'il y a trop de pensées que ça fait mal. S'il y avait anesthésie de la pensée, mais ça fonctionnerait tout seul. Mais s'il y a tant de dégâts, c'est parce que c'est impossible d'anesthésier la pensée, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Autrement, on n'aurait pas la situation dans le travail qu'on connaît actuellement. C'est parce qu'au fond, la pensée déborde les gens. Alors évidemment, ils se battent contre eux-mêmes. Ils sont habités par quelque chose qui déborde l'organisation du travail, toute cette sensibilité corporelle de pensée, enfin tout ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises, quoi. Tout ça, ça déborde, quoi. Et donc, et comme d'une certaine manière, c'est à l'étroit dans le monde d'aujourd'hui, dans une organisation du travail qui, au fond, refoule ça, on peut être amené, bien sûr, et beaucoup d'entre nous le sont, et même chacun d'entre nous, enfin moi je me sens concerné aussi à titre personnel. À un moment donné, on fait le travail nous-mêmes, quoi. On fait l'effort contre nous-mêmes pour ne plus penser. D'accord ? mais c'est une bataille, quoi. Et donc, c'est ce conflit-là dans la pensée qui est une source de développement considérable. C'est là qu'il faut aller. C'est à la rencontre de ça qu'il faut se porter, parce que l'énergie, elle est là. L'énergie, elle est dans le coup d'œil qu'évoquait Nicolas. Elle est dans cette opératrice qui se dit, c'est quand l'odeur a changé qu'on aurait dû faire grève. Hein, mais ça vient à l'idée tout de suite, hein, de beaucoup d'opérateurs, que là, l'odeur, il se passe quelque chose et on hésite à s'occuper de ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas. Il n'y a pas d'anesthésie de la pensée. On peut dire qu'il y a un effort pour anesthésier la pensée, mais c'est un effort qui est en permanence en échec. Et c'est pour ça que c'est douloureux. Parce que on pourrait, j'allais presque vous dire, moi, je souhaiterais qu'on puisse anesthésier la pensée, quoi. Et ça irait beaucoup mieux. Mais ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. C'est bien ça, le problème. Donc, et si on, le diagnostic est important. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans une phase d'anesthésie? Si on pense comme ça, on scie la branche sur laquelle on est assis, quoi. Hein. Et surtout, d'une certaine manière, on entre dans un monde, j'allais dire, dans l'univers morbide de la faute ou de la culpabilité, quoi. Alors que la question qui est posée, c'est une autre question, c'est la question de la responsabilité de l'acte. Ce n'est pas la même chose. Il faut choisir entre deux, vraiment, de mon point de vue, il y a vraiment un choix, faire la responsabilité de l'acte ou mariner dans la culpabilité. Et moi, mon métier, c'est faire de la psychologie. Je pense que la culpabilité, on sait où ça conduit. Ça conduit au consentement. Par contre, la responsabilité de l'acte, ça conduit au risque de l'action. Alors, c'est risqué, hein, c'est compliqué. Mais je pense que, en tout cas, pour la santé, c'est bien meilleur, quoi. Mais il ne faut pas faire l'hypothèse que l'anesthésie fonctionne. Les gens cherchent à s'anesthésier, mais moi, ça m'arrive aussi, pas les autres, hein. Moi, ça m'arrive aussi d'essayer de ne pas penser parce que c'est trop compliqué, que j'ai pas la main. Mais si d'abord je commence, moi, à me poser la question, à regarder que moi-même, je m'anesthésie, ça m'évite. Et à m'apercevoir du coup que ce n'est pas toujours vrai, ça me permet de porter un regard sur les autres qui est moins simple. Je pense qu'il faut oser penser que les autres pensent encore, quoi. Sans quoi, on se donne le beau rôle en plus, hein, parce que nous, on a compris que les autres ne pensent plus. La belle affaire.
Oui, je partage beaucoup vos points de vue et les discussions qui ont émergé. Mais par contre, par rapport à votre dernière intervention, je voudrais aussi souligner qu'effectivement, il y a ce mouvement de certains travailleurs sur, par rapport à eux-mêmes et sur ce consentement de prendre certaines responsabilités par rapport... faire leur travail, accepter la surcharge de travail, par exemple, pour eux-mêmes. Mais il y a aussi des tensions qui naissent et qui se reportent sur les autres. C'est-à-dire que le processus que vous décrivez, ça peut être un processus dans le monde du travail, mais on voit aussi de l'agressivité. C'est-à-dire que l'énergie que vous décriviez d'une personne par rapport à elle-même, elle peut être aussi déversée sur les autres. Et donc, ça, c'est aussi un phénomène à souligner.
Oui, mais justement, s'il y a de l'agressivité, c'est parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dispute, pour employer un mot qui vient bien. C'est... Voilà, c'est-à-dire si effectivement, si on ne peut pas discuter avec ses collègues de travail de la façon dont on fait le boulot, ben, au bout d'un moment, il y en a qui vont complètement se replier, puis d'autres qui vont agresser les autres. Donc, mais ce que je voulais dire, moi aussi, c'est que cette histoire de la controverse sur le boulot, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, c'est long, c'est sans fin, parce qu'effectivement, on va dans les détails, dans les petits gestes. Et plus on y va, et plus on en trouve, et plus c'est... Et à chaque fois, on en découvre encore. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, à la fois, c'est... je comprends, d'une certaine façon, pourquoi les syndicats s'y lancent pas. Parce que c'est compliqué. et que parce que ça divise et que c'est bien que ça divise et que c'est normal que ça divise parce que ça, enfin ça, ça unit en divisant quoi.
Oui, c'est l'altérité, ça met en, ça met en évidence l'altérité.
Voilà et effectivement, effectivement c'est plus facile dans une démarche syndicale de dire voilà on est tous d'accord contre contre les cadres, contre le gouvernement ou contre le ministre de l'Intérieur, etc. etc. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a... C'est une démarche difficile. Hein. Mais bah, moi, je suis d'accord que c'est vital, quoi. Et que si on ne le fait pas, effectivement, on est mal.
Il est peut-être l'heure de... d'aller se coucher.
On
va
pas tout réguler.
Je sais pas, non, enfin, moins que... J'ai envie de continuer, je sais pas. C'est sûr que ces situations dans lesquelles on a l'impression d'être d'être seul, quoi. Enfin, ou cette impuissance, enfin cette situation dans laquelle on est mis en impuissance de débattre, soit parce qu'on n'y arrive pas techniquement, soit parce qu'on se sent trop différent, soit parce que tout est organisé pour que le débat tourne toujours mal. Ou qu'il soit mal pris, qu'il soit pas pris comme un lieu d'élaboration, mais comme un lieu de division ou un lieu de dispute, ça rend les choses, ça rend le travail fou, quoi. Ça rend le travail impossible. Parce que c'est ça qui empêche d'inventer le travail, quoi. Et c'est ça qui nie en plus la possibilité de l'altérité. C'est que si on peut plus être différent, alors si être différent, c'est s'opposer à tout, enfin, c'est être le vilain petit canard, à ce moment-là. Il y a une négation de l'altérité qui fait que ben, on se replie, on est seul et on est impuissant. Et puis on a l'impression que la résistance devient une façon de se mettre très vite à dos tout le monde et voir. Dans ces discussions sur le travail, il y a une frustration qui naît et dans laquelle je pense qu'on ne va pas rentrer parce que ça intéresse trop peu de gens. C'est celle de tous les gens, et j'en vois ici au moins un certain nombre, qui sont leur propre employeur, qui sont l'avocate, qui sont le graphiste, qui sont l'universitaire, qui sont le compositeur, qui sont peut-être le masseur, et beaucoup d'autres peut-être qui... Et, parce que là, on parle de cahier des charges, on parle de... Mais quand on est dans une dualité... justement avec un donneur d'ordre et nous qui sommes en train de réagir entre la fonction et le travail, enfin, tout ce qu'on a dit, etc. Et quand on est son propre employeur, on a pas arrêté de parler, on a pas arrêté d'en parler, mais on l'a pas abordé et c'est trop tard. Et la question du rapport au temps, c'est le temps qu'on passe à chaque chose. Comment est-ce qu'on arrive à décider du temps qu'on passe aux choses, c'est-à-dire à les faire, mais aussi à les penser, à digérer, à les remettre, etc. Enfin, la façon dont on... Est-ce que le temps qu'on passe aux choses est uniquement celui qu'on passe dessus, ou comment est-ce qu'on emmène le travail à la maison, même inconsciemment, ou dans ses rêves, enfin, ou la nuit, et comment on revient le lendemain en ayant réglé le problème alors que on n'a pas travaillé, mais le problème est réglé. On a trouvé peut-être l'idée, par exemple, ou on a trouvé la solution, et que finalement, on s'arrête jamais de travailler. Et qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont asphyxiés, qui s'auto-asphyxient par le travail. Et qui ne peuvent pas s'en plaindre, qui en culpabilisent même d'ailleurs, parce qu'ils pensent qu'ils voient très bien qu'ils volent le travail aux autres, parce que tout le travail qu'ils font en trop, c'est un travail qui pourrait nourrir deux autres personnes de leur métier. Et en même temps, cette asphyxie les rend complètement insolents à l'égard de tous ceux qui n'ont pas de travail, ou à l'égard de tous ceux qui n'ont pas assez de... qui n'ont pas toute cette possibilité d'avoir toutes ces choses à penser ou à faire ou à dire. Et donc il y a une difficulté là, enfin, dans ces métiers qui sont des métiers où les gens sont leurs propres employeurs. Et c'est un autre sujet, c'est une petite catégorie de gens.
Et soyons pas insolents.
Oui, c'est en plein seul. Bon, mais merci beaucoup. Hein. Bravo, parce que vous avez bien joué le jeu. Hein.